L'histoire débute en 1835 avec le massacre de toute une tribu de grands pingouins par des pêcheurs à Eldey, au sud-ouest de l'Islande. Gus, un jeune scientifique, est présent et assiste à cette scène épouvantable en tant qu'observateur. Il parvient à ramener chez lui, aux Orcades, un grand pingouin blessé qu'il va pouvoir observer tant qu'il veut. Une fois ce travail terminé, il est prévu de faire rapatrier l'animal, mort ou vivant, peu importe, au Muséum d'histoire naturelle de l'île, qui se chargera de l'empailler. Le regard que Gus pose sur son grand pingouin est, les premiers temps, dénué de toute empathie, de toute compassion. Mais les choses ne vont pas en rester là. Bonjour Sybille Grimbert.
Bonjour.
Et bienvenue à Secrets d'écriture. Je vous reçois pour votre roman Le Dernier des Siens, publié aux éditions Anne Carrière. À l'origine de cette histoire, qu'y a-t-il ? La découverte du grand pingouin ou l'envie de parler d'un animal disparu, de dénoncer l'inconscience de l'homme ?
Au départ, il y a vraiment envie de parler d'une espèce qui disparaît, de la rencontre avec le dernier membre d'une espèce, le dernier individu d'une espèce. Je trouvais ça... tout d'un coup, je trouvais que c'est... En rêvassant, l'idée m'était venue comme ça, autour du dodo, tout bêtement, mais sans penser l'écrire. Et je trouvais que c'était vertigineux. Et même d'ailleurs de penser si j'étais le dernier être humain sur Terre, c'est-à-dire absolument l'horreur totale. Et en fait, c'est comme ça que l'idée est venue. Et du coup, j'ai cherché un animal qui pouvait rencontrer un être humain qui soit très proche de nous quand même, avec lequel on pourrait parler si on le rencontrait. Et je suis tombée sur le grand pingouin. Et là, je me suis dit, banco, c'est l'animal qu'il me faut.
Qui est un animal à la fois très, très émouvant, très drôle dans sa démarche et en même temps, très beau et un peu ridicule aussi.
Un peu ridicule, c'est ça que j'aimais bien. Alors, si je suis très très franche, quand j'ai repéré le grand pingouin, qui était le seul qui correspondait, qui avait les critères nécessaires, c'est-à-dire un homme peut le garder chez lui, c'est pas énorme, c'est pas une baleine, c'est pas un animal justement aquatique au sens plein, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'aller sous l'eau pour aller le rencontrer, il avait tout pour me convenir, mais je trouvais que c'était un peu convenu le pingouin. Au sens où ça ressemble quand même à un manchot, même si c'est pas du tout la même espèce. Et j'ai quand même dû m'habituer à cet animal que, si vous voulez, qui est devenu tellement... Et que j'adore d'ailleurs, mais qui est devenu tellement... un sujet de peluche, quoi. Donc j'ai dû quand même un peu l'apprivoiser d'un certain point de vue. Mais de fait, il m'amusait beaucoup par sa maladresse.
Le lien qui se tisse au fil du temps entre Gus et Prospe, puisque c'est ainsi qu'il va baptiser son grand pingouin, est extraordinaire. On a l'impression que vous avez avancé avec vos deux personnages, avec les connaissances qu'ils acquièrent l'un de l'autre, leurs découvertes, leurs incompréhensions et leurs limites aussi. Comment avez-vous procédé ?
Je me suis mise du côté de Gus, l'être humain.
D'accord.
Il était hors de question, bien évidemment, de faire parler le pingouin. Et puis, il était hors de question de prétendre savoir ce que, de toute façon, je ne savais pas, moi, Sybille, mais que, a fortiori, Gus ne savait pas. Donc, je suis complètement son regard. Ça, c'est le point presque technique. Ensuite, il y a plus personnellement, j'ai beaucoup étudié, étudié, la façon dont je regarde mon chat. Et je me suis calée sur la manière dont mon chat et moi sommes, du moins je le crois, je ne sais pas ce qu'elle en pense, devenus amis. Et comment petit à petit, on a réussi à établir une sorte de code ou des habitudes, des rituels, etc. Et comment, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai commencé à beaucoup l'aimer. Et en fait, j'ai suivi ce chemin-là.
Très bien. On sent en effet qu'il y a un vrai cheminement, qu'il y a une vraie progression et en même temps qu'il y a aussi des limites. C'est-à-dire qu'il restera toujours des incompréhensions et une frontière entre l'être humain et l'animal qui ne pourra pas être franchie.
Voilà. Et ça, vous voyez, c'était pas théorique. Je pensais pas, il ne faut surtout pas aller plus loin parce que... je pensais plus... Vraiment, je me suis calée sur mon rapport aux animaux et je me suis dit, tiens, là, je pense qu'il pense ceci, qu'il voit ceci, qu'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, tout en me disant, mais si ça se trouve, je me trompe totalement. Je n'en sais rien. Vous voyez, j'ai vraiment suivi ce chemin.
Ouais. Gus vit avec Prospe depuis déjà quelques années quand il se marie avec la Danoise Elinborg, je ne sais pas si on prononce comme ça.
On prononce comme ça.
Oui, qui accepte bien souvent que le pingouin passe avant elle dans la vie de son époux. Elle éprouve parfois de la jalousie, mais écrivez-vous, elle reconnaît que Prospe a révélé la faculté d'amour total de Gus, cette bonté due à ce qui vous est étranger, à ce qui est tout autre, ce que vous ne pouvez pas saisir parfaitement, le respect pour ce que vous ne pouvez que protéger et chérir parce qu'il s'est remis entre vos mains. Diriez-vous que son pingouin l'a rendu meilleur ?
Alors, je me permets de dire, j'aime beaucoup votre question. Je pense qu'elle est centrale. Et je suis contente parce que c'est vraiment ce que je pense. Eh bien, oui. Oui, je pense que son grand pingouin lui a permis... meilleur, je ne sais. Oui, je pense que ça l'a rendu meilleur au sens où il a compris cette sorte de, j'allais dire, oblativité, enfin de sens du sacrifice heureux, cela dit. Et parce que vous l'avez tellement bien dit qu'en fait j'ai assez peu à commenter, c'est-à-dire se mettre à aimer un être, qui est si différent de vous, avec lequel on n'a aucun contact facile, avec lequel tout simplement on ne parle pas, c'est quand même être démontré et s'apercevoir qu'on peut énormément s'ouvrir. Et en ce sens-là, Elinborg, je trouve qu'elle a bien raison de penser que ça l'a ouvert. Oui, je pense.
Oui, parce que c'est vrai qu'il part de loin quand même, Gus. Hein, il est au départ extrêmement... Enfin, moi, je l'ai trouvé assez antipathique quand même. Il se fiche complètement, en effet, de si le pingouin va survivre ou pas. Il a un vrai regard scientifique au départ.
Alors, c'est un homme de son temps.
Oui.
Moi, je serais moins dure que vous. Je le trouve ni antipathique, ni sympathique. Enfin, je le trouve quelqu'un de son époque qui n'a pas notre sensibilité très fine sur l'altérité, en fait, et sur les animaux. Et c'est vrai, il n'est intéressé que scientifiquement. Enfin, ce serait complètement absurde de penser, du moins pour lui... un jour aimer un animal comme ça, ça n'a pas de sens. Mais effectivement, il va découvrir cette affection folle.
Absolument.
Ça, c'était bien. Voilà. Je corrigeais juste, de mon point de vue, il n'est pas antipathique au début, c'est tout.
Un jour, Gus comprend que Prospe est peut-être le dernier grand pingouin sur Terre. Mais à l'époque, je rappelle que nous sommes en 1835, la disparition des espèces n'est pas un sujet. Elles se fondent uniquement, en fait, sur des rumeurs propagées par des marins, des voyageurs. Vous écrivez dans les notes à la fin de votre livre, « Pour Gus et les siens, l'idée d'évolution n'entre pas en ligne de compte. L'histoire du monde ne ressemble en rien à ce qui, pour nous, relève de l'évidence. » C'est-à-dire...
Ça a été une des choses auxquelles je ne m'attendais pas et qui m'a totalement fascinée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, quand j'écrivais, je me suis retrouvée devant un mur. Je me suis aperçue que je ne savais pas ce que Gus ignorait, ou ce que Gus savait, comme vous voulez. Et je ne pouvais plus avancer sur cette histoire du dernier d'une espèce si j'ignorais ce qu'il concevait. Et donc là, j'ai interrompu, j'ai fait des recherches, qui sont donc les livres que je cite à la fin. Et... en fait, Gus, c'est avant Darwin. Enfin, cette histoire, pardon, c'est avant Darwin. C'est-à-dire que donc, il ne connaît pas l'évolution des espèces. Ne connaissant pas l'évolution des espèces, il ne connaît pas, il n'intègre pas, si vous voulez, une certaine, je le dis dans des termes de néophyte, une certaine cruauté, la compétition, tout simplement. Et pour lui, comme pour un homme de son temps, avec quand même, faut nuancer beaucoup, le monde est une chose harmonieuse. Il existe, il est comme... On vient très peu de temps avant de découvrir les premiers squelettes de dinosaures. Hein, pour vous dire que tout ça, enfin, les cinq extinctions, personne ne sait ce que c'est. Donc, il ne peut pas imaginer que dans ce monde harmonieux, un animal si inoffensif, si charmant, si peu dangereux disparaissent. Ça n'a pas de sens. Et même si à son époque, on commence à penser que déjà, puisqu'il est déjà dans une ère industrielle, la pêche à la morue, par exemple, a décimé les grands pingouins autour du Canada, devant le Canada. Même s'il peut en avoir une idée, il n'y a pas de raison. Il est en fait un des premiers à penser sixième extinction, c'est-à-dire disparition des espèces à cause de l'être humain.
Quand on lit l'histoire de Gus et de Prosp, on est bien obligé de faire le constat suivant. Malgré les progrès de la science depuis cette époque-là, les chiffres et les statistiques que nous avons quasiment en temps réel à disposition aujourd'hui, nous continuons d'exterminer des espèces entières d'animaux et parlons aujourd'hui de la sixième extinction des espèces. Pensez-vous que rien ne nous sert de leçon ?
Bizarrement, je vais peut-être être optimiste, ce qui me ressemble assez peu sur ce cas. Je pense qu'on tire des leçons, en fait. Après tout, la COP a été sur le sujet et je pense que, au fond, on en parle beaucoup. D'un certain point de vue, et sans du tout que ça touche à mon mérite ou pas, le fait que mon livre, que j'ai écrit ce livre-là à un moment, à ce moment précis, prouve bien que ça a infusé dans la société. J'ai rien de particulier, je ne suis pas une militante, et le sujet est venu sans que même j'y pense, d'un certain point de vue, politiquement. Donc ça prouve bien que quand même, on y réfléchit de plus en plus. Donc maintenant, comment faire ? Je serais bien embarrassée pour vous répondre, et je suis bien contente de ne pas être... politique pour essayer de trouver la solution. Je ne la connais pas. Mais j'espère que quelqu'un va la trouver. En tout cas, je ne pense pas que le problème soit... qu'on n'ait pas conscience du problème.
Vous écrivez que Gus, à force de côtoyer son grand pingouin Prosp, pense avoir acquis l'esprit pingouin. Expliquez-nous ce qu'est l'esprit pingouin.
Alors, j'ai écrit cette phrase et je suis d'accord avec cette phrase, mais je pense que l'esprit pingouin, c'est l'esprit animal. Et surtout, en dehors de tout ça, je crois que quand il dit « j'ai acquis l'esprit pingouin », il marque la grande différence qu'il a avec un animal, mais en même temps, c'est « j'ai acquis l'esprit de quelqu'un que j'aime, d'un être que j'aime ». Et je crois que toujours, quand on aime quelqu'un, petit à petit, on pense, à tort ou à raison, mais parfois à raison, ça arrive, qu'on a les automatismes, qu'on comprend tellement bien cette personne qu'on a certains automatismes qu'il a, etc. Et c'est dans ce sens-là, aimant son animal, et l'ayant beaucoup regardé, il pense, il voit, il pressent les réactions de son animal. Et ça, je pense que c'est vraiment le propre de l'amour.
Tout à fait. Je ne vais pas en dévoiler plus sur tout ce qui arrive à Gus et Prosp ensemble, parce qu'ils ont à la fois une vie ensemble qui est passionnante et dramatique, j'ai envie de dire, avec des grands moments de bonheur et des grands moments de malheur. Il leur arrive beaucoup de choses à tous les deux. Je voulais finir sur le prix 30 millions d'amis que vous avez reçu. Vous avez notamment, parmi les jurés qui font partie de ce prix, reçu les louanges de Michel Houellebecq, qui a dit « c'est un vrai personnage animal ». La question est intrigante, comment on communique avec quelqu'un qui n'est pas de son espèce, sans le langage ? Frédéric Lenoir a trouvé que le dernier des siens était très prenant et très touchant. On se met dans la peau du pingouin. Et il ajoutait que ce livre est extraordinaire, le plus curieux et le plus intéressant que j'ai lu depuis que je suis dans le jury. Quant à Joël Dicker, il estime que vous avez réalisé là un tour de force. Comment s'est passée la remise du prix ? Étiez-vous heureuse ? Étiez-vous émue ?
Alors, j'étais très, 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 très heureuse. Et finalement, je dois bien le dire, j'ai été quand même assez émue. Je m'y attendais pas parce que je pensais que j'étais un peu costaud sur ce genre de pas, c'est mon premier prix d'ailleurs dans ma vie, mais que bon, et ben en fait non, j'ai été très impressionnée. C'était à la fois sympathique, drôle, pas cette sympathie, cette bonhomie est très très agréable. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé.
Avant de passer à notre questionnaire secret d'écriture, vous avez choisi de nous lire un extrait de votre roman « Le dernier des siens ».
«
Gus avança lentement à travers les rues de Reykjavik, hochant la tête comme s'il se répondait à lui-même ou à un démon. Il était le propriétaire d'une anomalie, d'un être comme il n'en existait aucun autre, et il haussait les épaules de cette stupéfaction. Agitait une main devant lui comme s'il réfutait un argument, penchait à nouveau la tête perplexe. Il possédait un animal qui n'existait pas ou plus. L'équivalent d'un griffon, un être fantastique comme on en voit dans les rêves, un animal aggravé sur un médaillon au-dessus d'une devise. Comment était-ce possible? Les baleines, les phoques vivaient toujours. Ailleurs en Afrique, il y avait des rhinocéros gros et sans doute stupides, dont on aurait fait de bons ragoûts et qui se pavanaient tranquillement. En Australie, un animal incroyable, une farce de la nature, un castor avec un bec de canard qui, plus extraordinaire encore, pondait des œufs alors que c'était un mammifère et qu'il allaitait. Pourtant, cet animal absurde, pas même beau, vivait, quand l'espèce de prospe, inoffensive, drôle, gracieuse dans l'eau, avait disparu. Où était la justice? Sans parler de l'harmonie du monde. Et alors qu'il quittait la ville pour rejoindre son bateau, ses bras commençaient à voler au-dessus de sa tête, tandis que les passants s'arrêtaient pour le regarder et rire. Une fois à bord, il se calma. Prospe et lui partiraient le lendemain. Il n'y avait plus de raison de rester ici. Ils iraient dans cette région presque vide de toute population humaine, où avaient peut-être été vus les derniers grands pingouins vivants longtemps auparavant. Ce serait un pèlerinage, un retour vers la terre d'origine avant de disparaître. Ils se recueilleraient devant la mer et sur les plages, où chaque vague, chaque grain de sable serait pareil aux stèles penchées d'un cimetière que plus personne ne vient visiter. Tout d'abord, il n'osa pas regarder Prospe, tandis qu'il préparait la chaloupe. Il avait honte. Il ignorait comment il pourrait lui expliquer la chose étrange et insensée qui lui arrivait. Être le seul des siens encore sur Terre. Être, autant le dire une fois pour toutes, le dernier grand pingouin d'un monde qui était pourtant immense et mystérieux. Et qui aurait pu en abriter encore des millions. Une créature au destin unique. Le dernier à connaître les sensations, le langage, l'instinct des siens. Le seul de toute la non-éternité des grands pingouins à se souvenir des plus de 100 000 ans qu'il venait de passer sur Terre.
Sybille Grimbert, nous allons terminer avec notre questionnaire secret d'écriture. Votre mot préféré?
J'ai choisi fantaisie, parce que je trouve que la fantaisie, ça dit tout. Ça dit à la fois l'intelligence, la drôlerie, qui est encore une forme d'intelligence, et que c'est quelque chose de précieux et que j'apprécie énormément. J'espère même en avoir un peu.
Voilà. Celui que vous détestez?
Rentrer. Comme la rentrée des classes, et a fortiori rentrée littéraire. J'ai détesté tout ça, j'ai détesté la rentrée des classes à un degré inimaginable, et j'aimais pas non plus du tout les rentrées littéraires que je trouvais très dures, très pleines de compétition, et même d'ailleurs de compétition, enfin, même si vous êtes la seule à croire que vous êtes en compétition avec les autres qui vous calculent pas, enfin mine de rien, c'est absolument horrible, et celle-ci s'est quand même bien passée. Donc pour mon livre, donc pour moi, mais... c'est toujours des moments assez, assez angoissants et souvent assez tristes.
Votre endroit préféré au monde?
La montagne en été. Je ne monte jamais parce que j'en suis pas capable physiquement et puis j'aime pas ça, j'aime pas beaucoup l'effort. Mais en revanche, aller au plus haut point avec une remontée comme mécanique et redescendre avec quelqu'un en bavardant est une des... D'abord, c'est beau, hein, c'est magnifique, c'est varié. Et c'est très propice à la conversation. Et on se dit beaucoup de choses, on réfléchit beaucoup de choses, on divague, on rêvasse en bavardant, et c'est absolument merveilleux.
Votre dernière lecture?
C'est Haushofer, Martha, je crois, Le mur invisible, qui est un livre... que je ne connaissais pas du tout, qu'on m'avait conseillé. Et là, je vais en parler un petit peu. C'était le sujet me paraissait difficile à tenir, et voire même un peu ennuyeux quand on me le racontait. En dehors du fait que c'est magnifique, une femme se réveille un matin, elle est entourée d'un mur invisible et est coincée seule dans une maison avec un chien. Et elle va vivre tout le temps du livre, seule, à cet endroit, avec, en se débrouillant. Le côté Robinsonade ne me plaisait pas particulièrement. Et tout d'un coup, je lis ce livre et je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça. C'est absolument prenant, bouleversant. Rien que le fait d'aller chercher de l'eau, si vous voulez, devient une aventure absolument exceptionnelle. C'est un suspense. Et en plus, elle a ce lien absolument merveilleux avec différents animaux qui vont arriver. J'aime des livres qui ne parlent pas d'animaux. Hein. Je ne suis pas bloquée sur les animaux. Mais là, il se trouve que c'est absolument passionnant, déchirant parfois, drôle de temps en temps, avec un chien, un chat, une vache, un veau. Et c'est un miracle. Ce livre est un miracle. C'est impossible de le lâcher sur une histoire comme ça qui pourrait paraître totalement, sinon évanescente, mais enfin manquée de chair humaine. Et vraiment, je le conseille.
Très bien. Votre prochaine lecture ?
Je vais relire, et je relis souvent quand même, pas toujours en entier, « Vie et destin » de Vassily Grossman. Et là, ça m'intéresse particulièrement parce que ça rejoint un peu les questions qu'on a abordées toutes les deux. C'est la bonté. C'est un livre splendide, magnifique, qui raconte des choses atroces, sans trop les masquer, et qui est totalement porté, enfin c'est convenu de dire ça, par l'idée de la beauté, de la bonté, pardon. Et la bonté d'une façon qui n'est pas, disons, molle, mais au contraire, à un moment, un de ses personnages le dit très bien, la bonté, c'est ce qui s'oppose à la conception du bien ou du mal. Du bien, la bonté, c'est ce qui est opposé aux idéologies. C'est quelque chose de seulement individuel. On n'est pas bon parce qu'on pense le bien. La bonté n'est pas c'est l'inverse de vouloir le bien qui peut amener à des horreurs absolues, comme d'ailleurs le livre le montre, mais quelque chose qui est extrêmement ouvert et extrêmement individuel, hors tout système. Et je trouve ça, ce qui ne veut pas dire que c'est niais, hein, ce qui ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais et encore que, et je trouve ça absolument magnifique.
Quels sont vos moments privilégiés pour écrire ?
Une journée devant moi, avoir l'impression que j'ai toute la journée.
Où écrivez-vous ?
À une table, parfois sur mon lit, avec l'ordinateur sur les genoux. Quand j'ai mal au dos, mais sinon tout bêtement à une table. Je me lève beaucoup quand même. J'écris, je pense à autre chose, je vais manger un truc, je reviens et ainsi de suite. J'ai beaucoup de mouvements.
Écoutez-vous de la musique lorsque vous écrivez et si oui, laquelle ?
Jamais.
Jamais.
Jamais, jamais, jamais.
Luttez-vous contre la page blanche et si oui, comment ?
Je lutte pas contre la page blanche au sens où le fait de voir cette page et de me dire « bon, commence » serait insurmontable. En revanche, je travaille beaucoup, beaucoup en amont sur en tout cas l'angle que je veux prendre, comment vaguement ça va s'organiser, qui, quoi, qu'est-ce, quel est le pronom personnel que je prendrai et ainsi de suite. De sorte qu'en fait, quand je commence, j'y vais toujours comme on plonge dans une piscine. Ça ne veut pas dire que ces pages-là seront celles qui resteront. Mais vous voyez, je sais bien me contraindre à commencer. Il n'y a rien de m'angoisse davantage que de me dire, tiens, je pourrais, mais je ne fais pas. Donc j'y vais toujours, je jette, je reprends. Voilà.
Qu'est-ce qui vous fait rire ?
Tout. Franchement, tout. J'ai à la fois le rire potache, j'ai à la fois le rire... j'aime l'esprit, mais j'aime aussi... quand c'est pas méchant, voir quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, ça me fait rire. Tout me fait rire.
Contre quoi vous défendez-vous ? Et ce sera la dernière question du questionnaire secret d'écriture.
Je me défends contre l'angoisse. Je suis très très angoissée et je me défends contre le fait d'être paralysée par elle. Écrasée par elle. Et c'est un peu pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, que j'ai tendance à ne jamais, à ne pas me laisser aller, à ne pas être coincée devant une page blanche. Si vous voulez, j'avance. Parce que, en fait, sinon, je suis très vite tétanisée.
Très bien. Merci beaucoup, Sybille Grimbert, d'avoir participé à Secret d'écriture. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Le dernier des siens, publié aux éditions Anne Carrière.
Je vous remercie.
Merci à Sybille Grimbert et aux éditions Anne Carrière. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Pour découvrir les nouveaux coups de cœur de la rédaction et d'autres secrets d'écriture, rendez-vous en kiosque ou sur le site femmeactuelle.fr. À très bientôt.